les voirités rejoint exactement les mêmes schémas qu'au Rwanda. Un régime en bout de course se met à recourir à l'arme ultime du politique qui est le bouc émissaire en disant « je vais consolider ma base électorale, m'appuyer sur les gens du coin » en désignant les étrangers comme les ennemis. C'est un phénomène que nous connaissons bien, c'est un phénomène tout à fait classique. Bon, c'est un phénomène, disons, le pénisan, qui a été inventé par, à la fois par le principal héritier du Fouette, Konang Bagbo, parce que son adversaire était du Nord, donc musulman, disait-il à la nationalité douteuse, etc. Donc en quelque sorte, on écartait près de la moitié de la population ivoirienne de la nationalité. On imagine les conséquences que ça représente. Et puis, ce qui est moins connu, c'est que ce concept, cette désignation de l'ivoirité, en gros, on pourrait dire les vrais Français de Le Pen par rapport aux non-français qui seraient tous d'origine plus ou moins étrangère. C'est qu'en fait, tous les Français sont d'origine étrangère, mais enfin, peu importe. Bon, ce concept a été aussitôt adopté par Laurent Gbagbo, qui au départ était issu d'un courant progressiste, allié au Parti communiste, et donc... malgré tout ce qu'on peut reprocher au Parti communiste, défenseur d'une idéologie universelle, une idéologie non raciste. Mandela a fait la même chose en Afrique du Sud, associé au Parti communiste sud-africain. Or, ayant beaucoup de mal à accéder au pouvoir à cause des méthodes de la France-Afrique, Laurent Gbagbo est allé prendre conseil auprès des proches de Mitterrand, qui lui ont conseillé de changer de stratégie, c'est-à-dire de se décoller du Parti communiste, et d'abandonner cette idéologie universaliste qui faisait de lui l'opposant le plus respecté, un opposant en quelque sorte universel en Côte d'Ivoire. Et quand il n'a pas eu cette idéologie, il en a cherché une autre, et il a choisi la stratégie identitaire, finalement dans la ligne de Conan Bédier, qui sera ensuite le président ivoirien, pour tout un tas de raisons, et notamment parce que Oufouette, pour lutter contre ses opposants, avait pris l'habitude de faire voter les gens du Nord, y compris des étrangers, de manière à lutter contre les opposants du Sud. Donc on a eu une espèce de retour de bâton, mais qui aujourd'hui a entraîné ce pays dans une espèce d'impasse.
On sait qui a armé aujourd'hui les rebelles du Nord.
Là encore, tout ça n'est pas simple à comprendre à première vue. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la France-Afrique, quand il y a des oppositions très fortes, on retrouve la France-Afrique dans chacun des camps. En 2000, il y avait quatre camps au Côte d'Ivoire. Le camp du général Gueye qui venait de prendre le pouvoir, un ancien général de Fouette. Le camp des deux successeurs, celui de Conan Bédier, celui d'Alassane Ouattara au nord, et celui de Laurent Gbagbo, l'ancien opposant. Bon. Pour faire bref, trois camps des héritiers d'Oufouette en train de se battre entre eux, et un camp d'un opposant d'Oufouette. La France-Afrique avait ses hommes dans chacun de ces camps. Elle les a encore. Comme ça, elle est sûre de gagner. Mais quand Chirac a repris la totalité du pouvoir après l'échec de Jospin, il a eu tendance à préférer les camps de droite aux camps de gauche, entre guillemets, de Laurent Gbagbo, qui, de surcroît, pour des raisons a priori incontestables, voulait prendre ses distances face à la domination des entreprises françaises sur l'économie ivoirienne. Donc tout ça faisait assez de raisons pour que la France-Afrique classique, qui est dominée par la droite, trouve les moyens, par Burkina interposé, d'aider la rébellion. Et puis en fait, elle s'est fait prendre au piège. Parce que cette affaire a mal tourné. Elle ne s'est pas conclue en une victoire franche. Et là, je crois que le souvenir du Rwanda a joué. Comme au Rwanda, l'armée française savait parfaitement que si on ne faisait rien, on allait vers des massacres épouvantables. De Rwanda, ça faisait beaucoup. Donc la France a choisi de s'interposer. Elle pouvait le faire d'autant mieux que la Côte d'Ivoire est l'une de ses bases militaires importantes en Afrique. Elle s'est interposée. Et nous, c'est peut-être la seule fois, nous avons soutenu cette interposition. Parce que quelles que soient les lectures politiques de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas eu d'interposition, on allait devant peut-être des centaines de milliers de morts. Et donc, je dirais, pour nous, on a une logique cohérente à ce sujet. Et ça, d'ailleurs, avec nous, mais nous avons été un peu à l'initiative, l'ensemble des ONG françaises ont adopté cette position. Bon, maintenant, la France se trouve dans une situation extrêmement compliquée, une situation dont je ne sais pas comment elle peut se sortir, parce que les différents camps, et notamment le camp Gbagbo, jouent la surenchère. Le fameux Honoré Gbanda, le conseiller de sécurité de Mobutu au temps du Mobutu France-Africain, conseille maintenant Laurent Gbagbo, et on retrouve les fameuses méthodes de la doctrine militaire française, c'est-à-dire les escadrons de la mort, le matraquage de propagande, la désignation du bouc émissaire, l'enrôlement de milices. Donc tout ça peut très mal tourner.